France Musique. Sous la couverture, Philippe Venturini, France Musique.
Bonjour, Claude Debussy est un des compositeurs français qui a suscité une des plus abondantes littératures. Aussi, un siècle après sa disparition, en 1918, peut-on estimer tout connaître de l'homme, de son œuvre, de son environnement privé et professionnel? Tout? Probablement pas. C'est ce que nous démontre avec brio Denis Herlin dans un recueil de 18 articles et quelques 500 pages. 18 articles pour mieux appréhender les rapports du compositeur avec les écrivains, notamment ceux de son temps, avec Chopin, avec l'argent, de découvrir des œuvres de jeunesse ou de comprendre comment Debussy remaniait ses compositions au gré des années ou comment son opéra Péléas et Mélisande a été reçu à Bruxelles. Debussy, portrait et étude de Denis Herlin chez Holmes. Brigitte Bellez récitant le chœur et l'orchestre symphonique de Londres dirigé par Claudio Abbado. C'était un extrait de La Damoiselle élue de Claude Debussy. Bonjour Denis Herlin.
Bonjour Philippe Venturini.
Vous êtes musicologue, directeur de recherche au CNRS, rédacteur en chef des œuvres complètes de Debussy depuis 2002. Vous avez publié de très nombreux articles sur le compositeur et vous avez publié avec François Lesur en 2005 sa très volumineuse correspondance. Donc 18 articles, je l'ai dit, en fait vous avez regroupé dans ce très beau livre des articles que vous aviez publiés auparavant, pas forcément en français d'ailleurs, mais donc qui n'étaient pas toujours accessibles à un public français et en tout cas à un grand public.
Oui, c'était l'idée. Donc même certains chapitres sont inédits, celui sur Debussy lecteur et celui sur les soirs illuminés. Oui, c'était l'idée de donner un petit peu un autre angle sur la vie, la personnalité de Debussy. C'est pour ça que j'avais choisi ce titre à la fois portrait et étude, et aussi la couverture avec cette très beau portrait de Debussy que l'on connaît peu, qui était à la Philharmonie de Paris, au musée de Paul Robert. Portrait pour voir justement quels autres aspects de la personnalité on peut exploiter, envisager, aimer, apprécier, découvrir, et étude aussi, c'est sur certains aspects de son œuvre qui est toujours aussi complexe, avec la découverte parfois de nouveaux manuscrits ou effectivement, comme vous l'avez dit, les remaniements de ses œuvres.
Mmh. Alors justement, un extrait de cette Damoiselle élue qui est son troisième envoi depuis Rome, donc les années 1787-1788.
Enfin, 1888.
Oui, parce que ça sera mieux.
Qui est un petit siècle.
Voilà. Et qui a été publié par les éditions de la librairie d'art indépendant qui se situait 11 rue de la Chaussée-d'Antin, un endroit que fréquentait Claude Debussy, qui nous permet d'appréhender son rapport avec la littérature, avec les livres, avec les auteurs. Denis Herlin.
Oui, Debussy, évidemment, il faut le comprendre, est un autodidacte. C'est quelqu'un qui n'a pas une formation scolaire excellente. Il était d'un milieu modeste, mais pas défavorisé. Et donc, il est rentré au conservatoire très tôt. Et il a commencé par se passionner pour la littérature. Raymond Bonheur raconte qu'il le trouvait avec un livre de poésie à l'époque, ce qui était plutôt rare parmi ses camarades, ainsi qu'il le souligne. Et donc, l'une de ses passions, et notamment quand il va être à la Villa Médicis, c'est de commander des livres, des revues, tout ce qui se fait de l'actualité, de la publication. Et tout d'un coup, lorsqu'il rentre de Rome, là, il fréquente un petit bureau qui s'appelle la Revue Indépendante, qui va devenir le siège de la librairie de l'art indépendant. Et alors, c'est un endroit très étrange, parce que c'est tenu par un homme qui s'appelle Edmond Bailly, qui était un occultiste, qui fait tourner l'État, mais qui est musicien, qui est passionné par... C'est un type un peu fou, un peu dingue. On va faire tourner l'État. Satie, il vient régulièrement. Et surtout, lui se lance dans l'édition, en éditant des poètes et des romanciers qui vont être capitales pour la littérature française. Donc, je pense à Henri de Régnier, Pierre Louis, André Gide, Claudel, avant que toutes ses œuvres ne fassent le fonds de commerce du Mercure de France. Et donc, Debussy y allait quasiment tous les jours. Il y avait un vieux piano, il jouait sur le piano, il rencontrait les gens. Bon, tourner l'État, je pense pas que ce soit vraiment effectivement ce qui l'aimait le plus, mais en tout cas il était nourri, enrichi par cette atmosphère si particulière, la librairie de l'art indépendant.
Et ça permet justement d'imaginer, en tout cas vous l'expliquez très bien Denis Herlin, le rapport qu'avait Debussy également avec les auteurs, les écrivains de son temps qu'il fréquentait le plus possible.
Oui, alors par exemple, Henri de Régnier, qui va l'aider à obtenir auprès de Maeterlinck l'autorisation de mettre en musique Pierre et sa Mélisande, ce qui est évidemment fondamental, puisque Debussy avait un premier projet, c'était mettre en musique la princesse Malène, et finalement, Maeterlinck avait refusé en disant, oh oui, on me l'a déjà demandé, donc non, pas question. Et donc, Maeterlinck n'était pas très musicien, ni mélomane. Il disait qu'il va, pour lui, c'était complètement étranger. Dit à Régnier, puisque vous le recommandez, dites-lui que c'est bon, voilà. Et donc Régnier a joué un rôle tout à fait fondamental, et c'était l'un des auteurs de la librairie de l'art indépendant.
On apprend aussi à la lecture de vos articles, Denis Herlin, que Debussy avait une véritable passion pour les livres. C'était un bibliophile. Il aimait les tirages, les tirages précieux avec les papiers, le papier Japon ou des papiers comme ça très très précieux.
Oui, c'est un homme de...
Il
aimait les beaux objets et les livres en faisaient partie. Et d'ailleurs, il regrettait. Il disait à son éditeur, c'est quand même malheureux que la musique soit si mal traitée, parce que la musique, Durand lui a fait un tirage spécial des préludes sur grand papier, qui est assez rare à trouver. Et donc, effectivement, à la librairie de l'Indépendant, on faisait ses tirages sur beau papier, toujours des tirages de tête sur Whatman, sur Chine, sur Japon, et lui a gardé ce goût-là. Mais il avait ce goût même dès lorsqu'il était à la Villa Médicis. Il commandait à cette librairie rue de Rome des tirages précieux, parce qu'il avait un tout petit peu d'argent à ce moment-là. Et alors, rien ne lui faisait plus plaisir, et Ségalène l'avait bien compris lorsqu'il est venu le voir, de lui offrir un tirage de tête sur Japon, sur Whatman. Et il y a dans le livre d'ailleurs reproduit la fameuse impression de stèle qui est faite au Japon. L'exemplaire a été vendu très récemment, il était encore resté dans la famille Ségalène. Enfin, il avait été racheté par la famille Ségalène, puis ensuite il a été revendu récemment. Ce tirage avec les bois et qu'on voit reproduit avec cette magnifique dédicace de Ségalène. Donc ça fait partie de sa personnalité. Il commande, dès qu'il y a un tirage un peu rare, il le commande, notamment les Cahiers de la Reine, par exemple, qu'il demande dans un tirage tout à fait spécifique.
Et Denis Herlin, il y a également un article absolument passionnant qui s'intitule « Debussy lecteur », où il y a un inventaire littéraire, un peu de la bibliothèque de Debussy, on découvre justement ses goûts littéraires.
Oui, alors ça c'était donc l'inventaire après, alors, qui était un peu frustrant parce que bon, parfois c'est pas décrit, mais enfin on a voilà, une idée un petit peu du panorama, de ce qu'il lisait, et on voit des choses tout à fait étranges, aussi bien de la littérature, ça peut être touché à la philosophie, ça peut toucher à l'histoire littéraire, à l'histoire elle-même. Donc c'est quelqu'un qui s'intéresse à des choses extrêmement diverses et variées, et comme le disait son beau-fils Raoul Bardac, c'était vraiment l'une de ses passions les plus importantes après la musique.
Et est-ce que vous diriez, Denis Herlin, que c'est la littérature qui a eu la plus forte influence artistique sur Debussy, plus que n'importe quel autre art ou discipline de création?
Bah, je pense que ça fait un tout. Bon, la littérature a été très très forte pour lui. Enfin, ça a toujours été un moyen d'évasion. Alors, à savoir si ça a été une influence directe sur son processus de composition, c'est beaucoup plus difficile à le dire. Bien sûr, pour les mélodies, on peut le dire, pour certains poèmes. Mais en tout cas, c'était pour lui un moyen de se nourrir, de s'enrichir, de trouver un espace de liberté. Et ne serait-ce que aussi par les arts visuels, comme l'avait montré Jean-Michel Lectou dans un très beau livre qu'il a fait sur Debussy et les arts. Donc je pense que tout ça a contribué à nourrir sa vocation musicale, plus que d'aller écouter les œuvres des autres. Et effectivement, quand on pense à l'œuvre de Debussy, c'est un peu une sorte de météore dans le ciel, dans le panorama musical français, puisque bon, certes, il a une formation au conservatoire, il est formé d'une manière assez classique, mais il y a une espèce d'immense souffle de liberté, d'ailleurs il le dit à plusieurs reprises, qui l'influe à la musique, une souplesse, une finesse qu'on ne connaissait pas auparavant. Et c'est probable que cette liberté, il l'appuie aussi dans tout ce qu'il lit à côté, dans tout ce qu'il voit, dans tout ce qu'il aime.
L'Orchestre national de l'ORTF sous la direction de Jean Martinon, c'était un extrait de La plus que l'an de Claude Debussy, orchestré par Claude Debussy. Denis Arlin, c'est étonnant cette orchestration avec ce cymbalum, on a peine à reconnaître la patte de Debussy.
Oui, c'est sûr, on écoute à l'aveugle d'une œuvre, on dit oh, Debussy, oui, c'est bizarre, oui, ça fait un peu musique, effectivement, 1900, musique pour un hôtel, presque,
voilà,
on
oui,
dirait.
Oui, oui.
Bon, alors le cymbalum, c'est lié à sa tournée en Hongrie en 1910. Alors Debussy n'aimait pas trop bouger, mais bon, là, on lui proposait quand même une bonne somme d'argent, venir diriger. Il disait, bon, bah finalement, je vais y aller. Et il s'est décidé, puis il était tout content de son voyage en Hongrie, des rencontres avec les musiciens hongrois.
Oui. Une bonne somme d'argent, dites-vous, Denis Arlin. Oui. Il y a justement un article, enfin plusieurs articles qui ont rapport qui traitent du rapport de Debussy avec l'argent. Donc, La plus que lente, là, c'est un travail qu'on lui a commandé, donc c'est...
Oui, enfin, il a proposé à Durand, parce
voilà.
que, voilà,
parce
que ça faisait une petite
piano.
Somme supplémentaire, voilà. Je pense, puis ça a dû l'amuser, finalement.
Oui, oui. Et il faut vous rappeler, donc, Denis Arlin, que Debussy, très tôt, a donc refusé d'enseigner, d'être accompagnateur, d'être répétiteur, en voulant être finalement compositeur libre. Mais du coup, évidemment, ça entraîne des problèmes, des difficultés financières. Et il écrit à Pierre-Louis en 1898 de voir 300 000 francs. Alors vous dites
oui.
que cette dette est peut-être difficile
à... Un peu surévaluée, mais bon,
oui, voilà,
il a vécu beaucoup au crochet de ses amis. Hein.
Voilà.
Mais, enfin, c'était vraiment l'idée que finalement, bon, il aurait très bien pu essayer de se caser, entre guillemets. Et il décide finalement... Et c'est là où c'était assez étonnant comme perception d'une certaine confiance en lui-même de ce qu'il vaut, de se dire, ben non, finalement, non, je ne veux pas avoir un poste de répétiteur dans un orchestre, je ne veux pas, je suis pas un pianiste virtuose, donc gagner ma vie, c'est un bon pianiste, un pianiste qui a un toucher merveilleux, j'en parle dans la piste sur Chopin.
Oui.
C'est quelqu'un qui a une qualité pianistique indéniable, mais c'est pas un virtuose. Donc il a donné quelques concerts, il a accompagné dans les années 1910.
Il n'aimait pas trop
non,
ça,
non, il le faisait, mais bon, il l'a fait à plusieurs reprises. Il s'y prêtait parce qu'il le faisait à mon avis très très bien. Et donc il décide finalement de vivre de son art, et pour vivre de son art en tant que compositeur à l'époque, soit on est rentier comme Chausson, soit on est un pianiste virtuose comme Saint-Saëns, soit on écrit des opéras tout le temps, comme Massenet. Alors Debussy ne remplit aucun de ces trois critères.
Ouais.
Donc, il aurait bien aimé écrire d'autres opéras, mais bon, ouais. ça ne marche pas. La Chute de la Maison Usher,
il
aurait fallu qu'il vive un peu plus longtemps. Je pense qu'elle aurait été finie, mais c'était une œuvre difficile. Et je pense qu'après Péléas, il avait du mal à trouver une voix,
qui
le satisfasse, qui soit à la fois... je pense qu'on aurait eu une œuvre très très belle, un peu comme un peu le Stroop Barbe Bleue de Bartok, des œuvres très très courtes et très très très, très concises. On a un témoignage de ce qui reste, la Chute de la Maison Usher.
Oui,
donc voilà, donc, et en plus, ce qui va aussi être un problème, c'est que donc il divorce, il se sépare de Lily, qui est une femme extrêmement modeste, il vit dans un petit deux pièces rue Gardiner, et il passe, il faut quand même le réaliser, dans un hôtel particulier, avenue du Bois de Boulogne, avec
avenue
Emma,
Foch aujourd'hui.
Avenue Foch, avec donc Emma Bardac, la femme d'un banquier, qui a un certain train de vie.
Oui, avec cuisinière, domestique,
voilà,
chauffeur,
donc tout ça, bon, ça ne lui déplaît pas. Hein. Comme dit son beau-frère, il aimait le luxe. Oui, mais il aimait le raffinement. Et je pense que Emma lui apportait un certain raffinement de vie. Et pour lui, c'était très important. Comme les livres, comme l'esthétique. Enfin, voilà. C'est un espèce d'environnement mental qui est propice à sa composition. Néanmoins, il se retrouve confronté à des dettes et à des emprunts de plus en plus croissants. Et donc, lorsqu'on emprunte, on a des taux d'intérêt terribles. Et donc, voilà, il va se décider, à un moment donné, de devenir chef d'orchestre. Il n'est pas chef d'orchestre du tout. Il n'est pas bon chef d'orchestre. Alors, on prépare les orchestres pour lui. Mais alors, il négocie durement, notamment en Angleterre. Lorsqu'on le sollicite pour aller au concert du Queen's Hall. Voilà, donc c'est un peu tout cet aspect-là sur l'argent. Et donc, alors on a l'impression, quand on lisait la correspondance, c'est ça qui m'avait frappé, qu'il était toujours en manque d'argent, qu'il ne gagnait rien. Donc je me dis, essayons de voir quels sont ses revenus réellement. Et finalement, c'est un compositeur qui a plutôt bien gagné sa vie. Alors on se dit, peut-être que s'il n'y avait pas eu cette pression de l'argent, notamment, au moment du martyr Saint-Sébastien, avec Inder Rubinstein et Astruc, qui lui disent, on vous donne de l'argent. Non seulement on vous donne tout de suite une forte somme cash, mais en plus, si vous ne le faites pas, vous le gardez. Ils avaient tout. Et donc, on n'aurait pas eu peut-être le martyr Saint-Sébastien, on n'aurait peut-être pas eu jeu. Donc voilà, finalement, vous voyez, ce rapport à l'argent est assez complexe.
So
Nathalie Dessay, accompagnée par Philippe Cassard au piano sur un poème de Maurice Bouchot, c'était Romance, non Les baisers d'amour de Claude Debussy. Denis Arlin, cette mélodie, c'est une des mélodies de jeunesse de Debussy, des années 1880-82, il avait à peine 20 ans, quoi, tout juste 20 ans. Ça fait partie de ces œuvres qu'on a redécouvert tout récemment, en fait, il y a une dizaine d'années.
Dans les années 2010, voilà, c'était chez un particulier. Et donc, grâce à Philippe Cassard, on a redécouvert ces mélodies. Alors, il y avait des manuscrits autographes. Alors, l'écriture de Debussy dans sa jeunesse est très différente de celle de la maturité. On peut dire, est-ce que c'est vraiment... Oui, c'est vraiment un manuscrit de Debussy. En plus, on avait quelques esquisses de cette mélodie, non les baisers d'amour, dans un petit carnet qui était à la Bibliothèque nationale. Et donc, quelle belle découverte d'avoir ce texte très original, en plus, sur cette poésie de Bouchot. Et donc, voilà, c'était encore... Ça complétait ce panorama d'un Debussy qui... est amoureux d'une femme, Madame Vanier, qui va écrire beaucoup de mélodies inspirées par des poèmes de Banville, de Verlaine. Et donc, ce qui est assez frappant, c'est qu'entre 1880 et 1885, eh bien, il compose une cinquantaine de mélodies, dont la plupart sont inédites. Et ça va vraiment être un moyen. Là aussi, on retrouve le rapport à la littérature, le goût pour la littérature, le goût pour la comment mettre en musique un poème, comment ressentir la musicalité d'un poème. Vraiment, on peut dire qu'il se forge son métier de musicien qui va vraiment nous conduire à ces pages de Péléas.
Est-ce que vous diriez justement, Denis Arlin, que tout ce travail sur les mélodies, Debussy en a composé quoi ?
Une centaine.
Tout ce travail sur la mélodie a été une sorte de laboratoire, mais pas que bien sûr, mais laboratoire quelque part pour Péléas.
Oui, tout à fait. Un laboratoire pour Péléas, un laboratoire pour forger son style, un laboratoire de liberté aussi par rapport aux exercices qu'on lui imposait au conservatoire. Un laboratoire amoureux aussi, parce que c'est vrai que la mélodie est très très liée à ses mouvements amoureux, notamment dans sa jeunesse, mais aussi lorsqu'il était pris d'une autre femme au moment où il compose les Bilitis, c'est quand même pas par hasard. Et quand il veut séduire Emma Barda, qu'il recompose à nouveau des mélodies sur des poèmes de Verlaine. Donc c'est quand même lié à quelque chose de très très intérieur et aussi je pense à un profond amour de la poésie et de certains textes. Avec à la fois toujours cette idée de recul des œuvres poétiques qu'il aime beaucoup comme celle de La Forgue ou par exemple Rimbaud, il le dit, je ne peux pas mettre en musique, ce n'est pas possible, il y a trop de choses. Et il s'interroge à plusieurs reprises sur qu'est-ce que c'est que la musicalité d'un texte. Et là il a un avis très différent de ses amis littéraires parce qu'il dit voilà, on dit que des pages de Victor Hugo sont ou de Chateaubriand sont flamboyantes de lyrisme, pour moi il n'y a aucune musique. Mais le rapport à la musique est vraiment une autre perception et qu'il a très très fine. Et on le voit d'ailleurs quand il corrige les textes de Zagone sur le Pierrot Lunaire.
Philippe Cassard au piano, c'était Les Soirs illuminés par l'ardeur du charbon de Claude Debussy. Denis Herlin, nous parlions de la poésie, Baudelaire, Le Balcon, Les Fleurs du Mal, Les Soirs illuminés par l'ardeur du charbon, est extrait donc de ce poème justement, Le Balcon, le balcon que Debussy mettra en musique dans sa jeunesse. C'est un des cinq poèmes de...
Dans les années 1888-1890, voilà. Un cycle de cinq poèmes de Baudelaire. Ouais. Très complexe, ouais. Extrêmement dense, peut-être un des cycles les plus ardus, je dirais, de Debussy, qui va séduire Mallarmé d'ailleurs, ouais. Et qui va être publié à compte d'auteur à Librairie de l'Art Indépendant. On y revient dans une présentation absolument originale, grand papier, grande marge, tout le contraire des pratiques éditoriales de l'époque où on compacte, on fait pas cher.
Et là, j'ai l'impression que la boucle est bouclée, parce que là, nous sommes en 1917, vraiment à la fin de la vie de Debussy, qui écrit cette petite pièce qui tient sur deux pages, hein, parce qu'elle est reproduite dans votre livre en quadricromie, simplement parce que Debussy a besoin de charbon.
Voilà,
l'anecdote paraît un peu surréaliste.
Debussy, c'est l'hiver.
Janvier 17.
Il fait très froid, terrible, il est malade. Ils n'arrivent pas à chauffer la maison, qui est immense. Vous imaginez, c'est ce grand hôtel particulier. Et donc, voilà, c'est la course au charbon. Il écrit à son éditeur Jacques Durand, vous pourriez m'aider? Oui, effectivement, je peux vous aider. Et il voit ce monsieur Tronquin. Alors, il a aussi des problèmes d'argent et... Le fait est que Monsieur Tronquin est un grand amateur de musique, visiblement. Il dit, je veux bien des sacs de charbon contre un autographe. Et alors, finalement, donc, Debussy, compose cette pièce. Alors, cette pièce est un peu étrange parce que c'est très court. C'est un véritable manuscrit d'autographe. C'est pas, il lui a pas filé un bout de chiffon, hein. C'est un manuscrit comme celui des préludes sur trois portées. Enfin, avec vraiment la belle écriture pianistique, un tempo métronomique. Et ce qui est assez étrange dans cette pièce, c'est qu'il y a beaucoup de réminiscences d'œuvres antérieures de certains des préludes pour piano. Et voilà, donc on a un Debussy pris sur le vif, presque en train d'improviser, en train de nous livrer une sorte de témoignage, son ultime œuvre pour piano.
Et une de ses toutes dernières...
Ah, c'est la dernière œuvre pour piano.
Pour piano, oui. Après, il y aura juste une...
Il y aura la sonate, qu'il peine à achever.
Ouais. Très bien, merci beaucoup Denis Herlin. On aurait pu parler encore des heures de ce passionnant livre Debussy, Portrait et études, qui vient de paraître chez Holmes. 18 articles, quelques 500 pages pour mieux connaître la vie, l'œuvre et l'environnement de Claude Debussy. Il y avait aujourd'hui à la réalisation Laurent Lefrançois, à la technique Philippe Mercher, attaché de production Annie Comier, qui s'occupe également très très bien du site. Je vous invite à le consulter. La semaine prochaine, je serai en compagnie de Gaëtan Puot pour évoquer Tristan Murail, compositeur à l'honneur de la prochaine édition du Festival Présence de Radio France en février prochain. D'ici là, excellente semaine et excellente journée à l'écoute de France Musique.
À réécouter sur francemusique.fr.